Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Got gun, Hulk left slot,
Dixie left, T left,
Mercedes, wide chip, Ricky, Bieber left, 75, Katie, Omaha,
quick going.
Last play of the game, who's going to win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, yeah! Go ahead, goal line, touchdown, touchdown,
touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 520 du podcast de Jean Actuel Amati. Très heureux de vous retrouver. On va parler NFL, évidemment, comme tous les mercredis matin. On va débriefer toute la semaine qui s'est écoulée et on va parler donc de la semaine 5 pour cette fois. Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël.
Salut Alain, salut à tous.
Grégory Richard est également là. Bonjour Grégory.
Bonjour messieurs, bonjour tout le monde.
Grégory, depuis le placard hein, aujourd'hui, on vous le dit, nous on le voit en visio, il est enfermé dans un placard. Micro.
Il faut varier les plaisirs, c'est important.
Voilà. Oui, c'est vrai, hein, la semaine dernière, c'était le beau papier peint.
Et oui.
Il faut
là,
te reconnaître.
Là, pour le coup, c'est tout en blanc, mais voilà, ouais. Il fallait que je trouve un petit peu une petite manière de me démarquer, et voilà, c'est chose faite. Désolé encore aux auditeurs qui n'ont toujours pas la possibilité de le voir.
C'est la magie de la radio, c'est pour ça qu'on en parle.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que tu as cette originalité, c'était de changer de cadre à chaque semaine. Donc on se demande ce qui nous attend à chaque fois.
Mais ça met la pression pour l'émission d'après, hein, je te le cache pas, parce que je vais forcément être à court de solution à un moment donné.
J'attends le duplex, tu sais, devant la Seine un jour. Alors je suis ici au bord du canal Saint-Martin pour le débrief.
Ouais, en novembre-décembre, je suis pas sûr.
Ouais, ça va pas être ouf, hein.
ça va pas être dingue. Ça va pas être dingue. Bon, messieurs, j'espère que vous allez bien. On va parler du champion en négatif, des Eagles toujours invaincus, de Tom Brady toujours protégé. Ça, ce sera dans la première partie. Les Bills déchaînés, les Jaguars décevants. Et on fait l'AFC donc ensuite. Je vois qu'il y a eu des mous quand j'ai dit Tom Brady protégé. Là, ça a fait des têtes bizarres. Mais oui, mais attendez, on arrive un peu dans le ventre mou. Là. Il y a l'excitation du début qui est passée. On n'est pas encore à l'excitation de la course au play-off. Donc là, il faut que je vende le truc. Quoi.
Donc
on est parti. Je vends le truc. On enchaîne.
Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Et quoi de mieux pour vendre une émission, messieurs, que de se demander si le champion en titre est carbonisé, cuit, en galère, en difficulté. Les Cowboys ont battu les Rams 22-10 et c'est notre premier match de la semaine. 4 victoires de suite pour les Cowboys, 2e défaite consécutive pour les Rams. On pouvait craindre la confrontation entre la défense des Cowboys et les Rams et ça n'a pas raté. Un seul touchdown pour Los Angeles, ils n'ont pas marqué un seul point en deuxième mi-temps. Est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme pour cette équipe de Los Angeles championne en titre? Grégory.
Bah, pour le coup, on s'attendait pas spécialement à les retrouver à 3 défaites en 5 matchs, mais c'est vrai que ce qui inquiète en l'occurrence sur leurs 3 défaites, c'est qu'on a du mal à se dire que c'est uniquement des scénarios, par exemple, de fin de match qui ont tourné du bon côté, ou en l'occurrence du mauvais les concernant. Il y a aussi des prestations où les Rams sont abonnés absents. Et ça, on l'avait déjà ressenti en première semaine contre Buffalo. Et offensivement, et c'est là aussi que les Rams s'étaient présentés comme des gros, gros favoris, enfin une machine à points comme on pouvait l'attendre avec notamment la signature d'Allen Robinson, enfin voilà, tout ce type de profil. On s'attendait vraiment à ce qu'il y ait de nouveau une force de frappe significative cette saison. Et là, sur les deux dernières prestations, ils se font éteindre littéralement, certes par deux bonnes défenses, mais en tout cas par deux équipes qui les ont vraiment étouffées de toutes parts, que ce soit au niveau du jeu au sol ou de la passe. Donc en effet, l'année dernière, le départ n'était pas transcendant pour les Rams, donc on attendra peut-être de voir si, comme l'année dernière, ils se reprennent fin novembre, par la suite au mois de décembre. Mais c'est sûr que pour l'instant, le contenu est très très loin de nous rassurer.
Raphaël, est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme ou alors est-ce que ça confirme juste en fait ce qu'on avait vu les premières semaines, c'est-à-dire pas de jeu au sol, pas de profondeur au poste de receveur et Matthew Stafford en dedans?
Oui, je trouve que ça confirme beaucoup ce qu'on a vu ces dernières semaines. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'évolution du côté de Los Angeles en attaque. On l'avait dit hein, dans l'émission de jeudi dernier qu'on se faisait pas non plus beaucoup de, on n'avait pas beaucoup d'attentes sur l'attaque des Rams contre cette défense de Dallas qui était très très en forme et qui l'a confirmé. Et que peut-être que cette confrontation arrivait un peu trop tôt pour Los Angeles, qui n'a pas encore la clé pour améliorer. Et je pense notamment à la ligne offensive. Hein. Là, on a vu dans la presse, à la suite du match, c'est Rob Averstein, le tackle droit, qui a fait une petite réunion avec les autres mecs de la ligne offensive. Ils ont fait une petite réunion entre eux, privée. Alors, qu'est-ce que ça donnera, j'en sais rien, mais pour essayer de remobiliser un peu tout le monde. Bon, je trouve que les problèmes sont les mêmes. Donc pour moi, la seule question maintenant, c'est est-ce que McVay a les solutions, que ce soit en coaching ou en interne, en termes de joueurs, pour faire évoluer ça? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas, là, après 5 semaines, s'ils ont les solutions pour trouver. Parce que quand on dit en attaque, ils ont des problèmes, mais au final, en nombre de, par exemple, sur ce match-là, si on prend typiquement ce match-là, ils ne font pas beaucoup moins de yards que les Cowboys hein, à la fin. Je veux dire, et c'est un peu ce qu'on avait dit aussi la semaine dernière, c'était presque plus à la défense de Los Angeles d'aller gagner ce match en provoquant des turnovers, ce qu'a fait Dallas, ce que n'a pas su faire Los Angeles. Et malheureusement, on voyait un peu venir que ça serait un match compliqué pour l'attaque de Los Angeles. Ça l'a été et ça risque de l'être encore quelques semaines.
Ils gagnent même la bataille des yards. Hein. Ils sont à 323 alors que Dallas est à 239. Mmh. Donc, ils la gagnent même assez largement. Tu as raison de dire que ça se joue sur les turnovers et sur l'efficacité dans la red zone parce qu'ils sont à 0 sur 2. Ça joue aussi. Donc, Greg, est-ce que c'est plus une... Est-ce que la défense n'est pas allée chercher? Parce que c'est dur aussi de leur reprocher. Il n'y a que 22 points, j'ai envie de dire, quand même, en face.
Oui, mais alors, pour le coup, et ça, c'est intéressant que Raph en parle, en effet, parce que c'est vrai que cette équipe de Dallas, encore une fois, alors certes, c'est ultra bonifié par le travail défensif et les pertes de balles. Hein. Il y a notamment, en effet, un touchdown sur retour de fumble, il me semble, de Dimarcus Lawrence, si je ne m'abuse.
C'est ça.
Mais c'est vrai que on pouvait craindre le pire avec Cooper Rush. Alors, c'est pas fabuleux, mais en tout cas, de l'autre côté, il n'y a pas de perte de balle. Et c'est ça qui est encore plus dingue, c'est que certes, c'est la défense de Dallas qui tient cette équipe à bout de bras, mais offensivement, on limite les erreurs et Dallas se retrouve en étant une des équipes avec la meilleure marge de turnover. Je crois qu'ils sont à plus 5, il n'y a que les Eagles qui sont devant eux au classement, de mémoire. Mais et sur un plan de jeu comme sur le match de ce week-end, on sait très bien que Dallas va courir. Mais pourtant, c'est ce qui fonctionne. Parce que ça aussi, c'est pareil. Je veux dire, autant la O-line des Rams est inquiétante, autant celle des Cowboys, jusque-là, notamment sur le jeu au sol, est assez propre. Et je trouve que globalement, on casse beaucoup de sucre sur le dos de Mike McCarthy. Mais je trouve qu'au-delà du bon travail que fait Dan Quinn en défense, je trouve qu'il y a quand même une équipe qu'on arrive à reconcerner, en tout cas qu'on n'a clairement pas perdu après la blessure de Dak Prescott, et c'est de très bon augure, même si en effet, forcément, offensivement, ils seront péjorés en passant de Dak Prescott à Cooper Rush.
C'est vrai que du côté de Dallas, ça se passe plutôt très bien. Je reviens juste sur les Rams, juste avec une question. Il est où le Sean McVay génie offensif? Ah, je vois que ça vous fait sourire. Raphaël, est-ce que c'est un sourire ironique? Est-ce que c'est un...
Non, je sais pas. Il est où? On en est à 5 matchs. Il sort d'un titre de champion. On en est à 5 matchs. On va peut-être lui laisser le bénéfice du doute. Voilà. Après,
c'est très boursouflé. Hein, ce truc de génie offensif. J'ai pas le souvenir qu'avec Jared Goff, ça explosait de toutes parts non plus. Et je trouve qu'il y a ce gros problème du côté des Rams. Alors là encore, on pointe du doigt la O-line. Je pense que le gros problème aussi qui tue un petit peu cette équipe de Los Angeles, c'est la protection du ballon, quoi. Et c'est aussi symbolisé par des K-makers sur du jeu au sol. Là, en l'occurrence, sur ce match-là, c'est Matthew Stafford. Alors, forcément, il prend énormément de pression, donc c'est pas aidé. Mais ouais, il y a beaucoup trop de fumbles, je trouve, dans cette équipe, que ce soit cette année ou dans les années précédentes. Après, c'est vrai qu'au niveau du jeu au sol, globalement, je trouve que les Rams ont jamais vraiment réussi à identifier leur running back numéro un. Pas toujours aidé par les blessures, hein, parce que c'est sûr que là, en ce moment, il manque Darrell Anderson. Mais il y a aussi des solutions à trouver justement pour rendre cette équipe moins unidimensionnelle qu'elle n'est, surtout avec un joueur peut-être comme Stafford qui peut avoir cette petite tendance en effet d'être parfois à surjouer, et ça peut être à double tranchant sur certaines parties.
Je me permets quand même, tu dis ça, c'est un peu boursouflé sa réputation, etc. Ça vient du fait que sa première année avec Goff et Gurley, ils sont numéro 1 sur les points en 2017, numéro 2 sur les points en 2018 avec Goff et ils vont au Super Bowl. Après, ça se tasse, mais il l'a gagné
c'est
à ce
pas
moment-là.
Tous les ans, c'est pas tous les ans non plus, oui, c'est ça. Ouais.
Bah, ils font 1-2, après ils font 11 et 22, là je suis vraiment sur les points avec Goff, et 7e l'an dernier, là ils sont 29e hein, sur les points marqués, donc ça c'est un peu corsé en tout cas pour cette équipe de Los Angeles. Donc en un mot, un verdict, on est inquiet, ça rate les playoffs par exemple. Est-ce qu'on sonne l'alerte à Malibu?
Non, je ne crois pas. Non, vu le niveau de la NFC, ouais. Je pense qu'ils ont encore okay. toutes leurs chances.
Raphaël, tu leur laisses toutes leurs chances aussi.
Ouais.
Très bien. Je précise qu'on n'a pas fait très très long sur Dallas, mais ne vous inquiétez pas, on reparlera notamment de la défense dans l'émission preview de mercredi avec un long passage sur Micah Parsons. À moins que vous vouliez en dire un mot, messieurs, mais voilà, ça a encore été une performance exceptionnelle hein, de Dallas en défense.
Oui.
Il est sur le chemin d'un titre de défenseur de l'année. Là, franchement, en plus sur ce match-là, c'est même pas le seul qui met la pression, mais on voit qu'à chaque match, il crée vraiment du grabuge. Donc, il est le favori à l'heure actuelle pour moi pour le titre de meilleur défenseur de la saison.
Promis, les fans des Cowboys, vous entendrez beaucoup parler de votre équipe lors de l'émission preview de mercredi, mais on a encore beaucoup de matchs et on va avancer sur le Cardinals-Eagles. 17 pour les Cardinals, 20 pour les Eagles. Fin de match très étrange hein, pour les Cardinals. Un ballon spiké alors qu'il n'avait pas le first down à cause d'une erreur du tableau d'affichage apparemment. Un field goal de 43 yards raté pour l'égalisation. Alors oui, la fin de match, mais Arizona se met aussi là-dedans en démarrant encore à 0-14. Ils prennent un 14-0. Pourquoi ils démarrent si lentement? Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Raphaël, est-ce que tu as une explication?
Non, je sais pas. Ils ont toujours pas marqué un seul point cette saison en premier carton. Donc, ça va faire 5 matchs quand même où ils sortent à 0 point au premier carton. Je sais pas. Pourquoi ça met autant de temps à prendre? Sincèrement, j'ai pas d'explication là-dessus. En dehors de ce qui est un peu inquiétant, ça revient à se poser la question du coaching, parce qu'en théorie, on sait que la première série des équipes sont assez scriptées, pour le coup, elle est assez préparée à l'avance. On sait déjà plus ou moins ce qu'on va faire. Donc, bon, qu'il y ait zéro réussite sur la première série depuis 5 matchs, c'est un peu inquiétant, on peut le dire comme ça, pour le coaching. Maintenant, en dehors du coaching, j'ai pas grand chose d'autre, parce que j'ai du mal à croire que des joueurs de NFL aient besoin de 15 minutes pour se mettre dans le bain physiquement et mentalement. Donc,
on retombe sur le coach Greg.
Bah, pour le coup, c'est vrai qu'on peut voir le verre à moitié plein en disant on arrive à faire des ajustements malgré tout, mais si on arrive à faire des ajustements une fois qu'il est trop tard, c'est un peu compliqué en effet. Alors là, trop tard, tout est relatif parce qu'ils finissent quand même par recoller. Ils ont en effet ce dernier drive. D'ailleurs, j'ai pas vu tous les ralentis, mais je trouve qu'elle est un peu sévère cette quatrième, parce que franchement, j'ai vu des premières accordées pour moins que ça en l'occurrence. Mais c'est pas forcément le propos, même si ça change forcément derrière tout le scénario et ce field goal entre guillemets un petit peu forcé des Cardinals avec leur kicker remplaçant, enfin en tout cas qui est devenu de facto titulaire par la blessure de Matt Prater. Mais pour le coup. Offensivement, en tout cas, cette équipe d'Arizona, je trouve qu'elle continue d'être un petit peu inconstante. Je suis presque plus rassuré ces dernières semaines par la défense que par l'attaque Arizona, et j'aurais pas cru dire ça en début de saison régulière. On voit que le retour de JJ Watt, si j'anticipe un petit peu, fait beaucoup de bien en défense, qu'ils ont réussi notamment à bien museler malgré tout les receveurs extérieurs des Eagles. Alors, ils ont toujours, c'est assez incroyable, cette difficulté à courir les tight ends depuis le début de la saison. Alors que pourtant, ils ont des Buda Baker, ils ont deux inside linebackers spécialisés, censés en tout cas être spécialisés dans ce domaine-là, mais ils ont cette difficulté. Mais globalement, la défense, je trouve que ce que met en place Van Joseph, notamment sur le backfield défensif, c'est assez cohérent. Mais ouais, en attaque, on en revient au point initial. Le domaine de prédilection du head coach, tu tu constates que bah, offensivement, tout n'est pas au point et qu'en plus, en termes de préparation en tant que telle, en tout cas pour rentrer d'emblée dans la partie, c'est pas ça. Donc forcément, Arizona à faire systématiquement la course en tête. Bah, tu te mets un petit peu en péril dans la précipitation et tu te retrouves avec des scénarios comme le scénario de ce week-end où tu rates ne serait-ce que la prolongation de peu.
Raphaël, à l'inverse, Philadelphie, c'est l'équipe qui est encore dans le pragmatisme, quoi. Peu de jeux longs, des courses, des passes écrans. Ils défendent en empêchant Kyler Murray de sortir de sa poche, sans mettre trop de pression, mais en contenant. Et eux, pour le coup, ils sont d'une efficacité et d'un pragmatisme, ouais, je trouve, qui est impressionnant.
Bah, encore une fois, moi, je les trouve presque, on pourrait dire, très polyvalents. C'est une équipe vraiment polyvalente qui a plusieurs façons de gagner, de s'adapter à l'adversaire. On voit que des fois, c'est plus par le sol, des fois, c'est plus dans les airs. Là, tu vois, tu as un A.J. Brown qui touche que 3 réceptions et pourtant, ça, les chaînes globalement avancent bien une bonne partie du match. Donc oui, ils sont assez bluffants là-dessus pour le moment en ce début de saison. Il n'y a pas vraiment de défaut dans l'équipe. Il n'y a aucun secteur de jeu qui paraît totalement à la rue, totalement... enfin, en tout cas, en mesure de faire perdre cette équipe. Donc c'est vrai qu'ils donnent le sentiment que pour le moment, pour les battre, il faudra juste être meilleur que eux. Et l'erreur ne viendra pas particulièrement d'eux, en tout cas. Donc tant mieux. Voilà, c'est une équipe bien coachée, il y a du talent. Il n'y en a peut-être pas assez dans la Ligue, ça serait un autre débat pour une autre émission, il n'y a peut-être pas assez d'équipes dans la Ligue bien organisées comme ça, donc tant mieux pour eux. Après, juste pour revenir sur Arizona, c'est une défaite bête, et parce que le bilan du coup n'est pas bon, mais c'est quand même mieux que ce qu'on a vu en semaine 1 et 2. Je trouve qu'il y a quand même une dynamique peu meilleure du côté d'Arizona ces dernières semaines.
C'est sûr.
Les Buccaneers 21, Falcons 15. Alors, on essaye généralement d'éviter les polémiques d'arbitrage dans cette émission, mais là, on va difficilement passer au travers de ce coup de sifflet atroce qui a transformé un sac de Tom Brady en brutalité sur le passeur. Coup de sifflet qui permet aux Buccaneers de faire tourner l'horloge jusqu'au bout plutôt que de rendre le ballon à des Falcons qui auraient du coup eu l'occasion de gagner. Je pense que j'ai pas besoin de dire que le coup de sifflet est terrible et de vous demander et qu'on passe 5 minutes là-dessus. Le coup de sifflet est terrible, non, et c'est tout.
Oui, bah, je vais être un peu plus mesuré que ce que j'ai mis sur les réseaux sociaux dimanche soir.
Ah, j'ai pas vu là pour le coup. Bon, c'est vrai que mais ça te touchait, mais
non, mais bah, après forcément, j'étais plus focalisé sur Atlanta sur ce match-là. Après, enfin, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, mais ça aurait été n'importe quel match, j'aurais pas trop compris. Globalement, sur ce match-là, il n'y a pas scandale. Atlanta avait fait plus ou moins le même scénario à Los Angeles où ils sont menés une bonne partie de la rencontre. Et où ils y croient éventuellement en fin de match, mais où forcément c'est un peu trop court. Là, forcément, il y a un scénario qui laisse un arrière-goût amer parce que tu te dis bon, ça aurait été bien d'avoir cette opportunité-là. Après, le problème, pour juste être très synthétique là-dessus et pour parce que encore une fois, je l'ai dit, la victoire de Tampa est globalement méritée. Offensivement, je pense que Atlanta, voilà, il manquait Cordarrelle Patterson et Kyle Pitts, ça c'est un fait. Maintenant, je pense qu'il va falloir vraiment se poser la question du quarterback. On voit que Marcus Mariota est malgré tout un frein. Alors, c'est pas une surprise en soi, même si on voyait que, notamment face aux Saints, par exemple, il y avait quelque chose d'intéressant. L'essor est clairement retombé. Et pour moi, c'est une question de jours, de semaines avant qu'on voit Desmond Ridder. Mais voilà, va peut-être pas falloir attendre le dernier moment pour Atlanta et être sûr que les playoffs s'éloignent, même si c'était pas forcément l'objectif de début de saison, pour vraiment lancer le quarterback route.
C'est clairement, je rappelle le scénario, les Buccaneers menaient 21-0 au début du dernier quart, donc comme tu l'as dit, les Falcons n'ont pas lâché, ils se sont appuyés sur leur jeu au sol, ils ont marqué, ils avaient stoppé Brady, donc c'est dommage, c'est pas payé. Mais après, comme tu le dis, il y a cette question du quarterback. Raphaël, est-ce que les Falcons sont un peu dans la même situation que les Steelers, en un sens où bah, Trubisky, on sait ce que c'est très limité et tu perds rien à mettre le rookie en fait, quoi.
Oui, c'est ça, effectivement. On sait ce qu'on a vu avec Mariota. Alors là, on a presque envie de dire que vu la résurrection de Geno Smith, on ne sait pas si ça peut pas arriver à d'autres joueurs. Mais non, globalement, effectivement, on sait ce qu'on a.
Il y a trop de fumbles, par exemple, rien que ça.
Ouais, et puis même dans le jeu de passe, enfin, ça se sent que c'est vraiment limité. Il y a aucune capacité à attaquer la profondeur. C'est trop minimaliste dans le jeu de passe. Donc, tu risques pas grand-chose à envoyer Desmond Ridder. Je pense que maintenant, c'est au coach de juger quand le moment est opportun, mais je suis d'accord que Ridder ne va pas finir la saison sur le banc. En tout cas, ça serait vraiment très, très surprenant.
Tom Brady a encore lancé 52 passes côté Buccaneers, dont 10 pour Leonard Fournette. Ça continue à se mettre en place par séquence pour Tampa. On en est là, c'est une équipe de très haut de tableau, mais en rodage. Il y avait Mike Evans et Chris Godwin. Ça commence à se remettre en ordre, j'ai l'impression, du côté de Tampa Bay. Ça commence très bien.
Et bah c'est ça, si on arrive à récupérer les pièces, parce que l'année dernière, ils étaient décimés sur le poste de cornerback. Cette année, c'est plus les receveurs qui sont quelque peu impactés, alors ou par les blessures ou par les suspensions par rapport à ce qui s'est passé avec Mike Evans. Mais là, c'est vrai que le fait d'avoir de nouveau les deux à disposition pour Tom Brady, c'est une bonne chose. On sait que Julio Jones est pas là. Alors, on sait pas l'impact qu'il aura in fine tout au long de la saison. C'est pas prévu d'être un des deux principaux receveurs, mais on sait qu'il est capable de sortir des catchs de folie malgré tout. Et Brady a cette capacité aussi de pouvoir s'appuyer sur Leonard Fournette, et ça a été un élément important sur ce match-là, et ça a conduit notamment à un des touchdowns, puisque Fournette termine avec deux, dont 10 réceptions quand même sur le match, un touchdown dans les airs. Donc voilà, ça roule plutôt pas mal. Je parlais du poste de receveur, ils ont été assez décimés sur la O-line aussi, donc le fait de voir que Brady arrive malgré tout à faire bouger les chaînes avec ces problématiques-là autour de lui, même si tous les voyants ne sont pas ouverts du côté des Bucks, même s'il y a tous ces à côté sur lesquels on ne va pas revenir, mais voilà, les problèmes ne serait-ce que personnels actuellement de Tom Brady, avoir une équipe qui arrive à engranger les victoires, oui, et à rester maître dans une division NFC Sud qui, sans être brillante, reste à conquérir, c'est une très bonne chose.
Tom Brady est à 11-0 contre les Falcons. Je suis désolé pour la stat.
J'aurais préféré qu'il en perde qu'une seule. C'était pas le match de ce week-end.
Panthers 15, 49ers 37. C'est le match qui a coûté la place de Matt Rhule. Je vous réfère à l'émission d'hier pour tout ce qui touche au licenciement de Matt Rhule. Est-ce qu'on peut résumer ce match des Niners en disant que c'était un match où Shanahan réussit du Shanahan, défense, gros jeu au sol, passeur qui gère, et on y est. C'est efficace. Raphaël.
C'est ça, c'est le scénario type 49ers de ces dernières saisons quand ça va globalement bien. T'as résumé un peu tous les bons ingrédients, c'est propre, ça fait peu d'erreurs, ça va gagner des ballons à gauche, à droite. Alors face à une faible attaque, hein, en face, on ne reviendra pas, mais particulièrement sur le génie Matt Rhule, mais on sait que ces dernières saisons, Carolina, pour les battre, il suffisait de mettre plus de 17 points. Donc voilà, ils l'ont fait, donc c'est victoire. Non mais parce que la stat était passée la semaine dernière, hein, mais de mémoire, Matt Rhule, quand l'équipe adverse marque plus de 17 points, il avait un bilan de une victoire pour 20 défaites, quelque chose comme ça. Donc il y a un moment, voilà. Voilà, il y a pas grand chose de plus à dire, hein. Ils ont battu une équipe en difficulté en face. Ils sont dans une bonne dynamique. Ouais, on n'apprend rien sur San Francisco, je trouve. La blessure de Mosley peut leur faire un peu mal. Ils ont perdu quelques joueurs quand même sur ce match. Attention, blessure de Mosley dans le backfield défensif peut les embêter un peu. À voir.
Il y a le coureur random à 120 yards. Enfin, il y a vraiment tout le match, hein, type oui. Shanahan. Greg, on va dire quand même un mot des Panthers. Baker Mayfield qui lance pas de touchdown et une interception, qui prend 4 sacks, qui se blesse. D'ailleurs, il devrait être absent plusieurs semaines. Donc, on va avoir un nouveau quarterback, visiblement PJ Walker pour l'instant. La défense qui fait ce qu'elle peut. C'est Steve Wilks qui arrive derrière. Est-ce que cette équipe sous-performait ? Est-ce que, par exemple, dans ce match-là, il sous-performait et on peut dire Steve Wilks, il va avoir une chance de faire mieux ?
Ah, je pense que cette équipe sous-performera. Je ne vois pas très bien comment ça peut changer du jour au lendemain. Alors, on le rappelle pour ceux qui suivraient éventuellement la NFL depuis peu, Steve Wilks a une très légère expérience de head coach. En NFL, du côté des Cardinals, ça remonte à il y a trois saisons peut-être.
2018.
Ah oui, quand ça remonte à... Oui, bah, la fameuse première année de Josh Rosen, qui ne s'est pas très, très bien passé pour Arizona. Alors, on pourra toujours lui dire, il avait Josh Rosen. Là, le problème, c'est qu'il va finir la saison avec PJ Walker, a priori. Enfin, en tout cas, ne serait-ce que les prochaines semaines. Ouais. Voilà. Donc oui, non, je ne m'attends pas forcément à des miracles. Il y a des investissements qui ont été faits sur un tackle au premier tour. C'est pas juste dire que Ike Mekwono a dû changer toute la phase de la ligne offensive des Panthers, mais c'est une des équipes qui concède le plus de sacs au sein de la ligue. Ils ont éventuellement quelques bons receveurs, un Christian McCaffrey qui tient encore un peu debout, mais franchement, je vois pas comment offensivement, surtout qu'ils gardent le coordinateur offensif, hein, a priori Ben McAdoo est conservé comme coordinateur.
Je crois que c'est le seul qu'ils ont pas viré, hein, parce qu'ils ont viré le coordinateur.
Bah oui,
offensif,
bah en même temps, c'était le seul secteur qui tenait à peu près la route. Ça aurait été dommage de le dégager. Mais non, mais voilà. Je veux dire, au sortir de cette semaine 5, on se disait que les Panthers avaient une belle tête de numéro 1 de la draft. Là, je pense qu'on est passé officiellement en mode Carolina Tankers, donc je pense qu'on va suivre ça et que si Wilkes voilà, va peut-être essayer de tirer le meilleur de quelques éléments des deux côtés du ballon, mais ce sera guère mieux parce que voilà, c'est pas une équipe qui a ne serait-ce qu'une profondeur d'effectif pour tenir sur l'ensemble d'un match et sur l'ensemble d'une saison.
C'est vrai que la lutte va être acharnée, je suis en train de regarder le classement. Les Lions, Raiders, Steelers et Commanders sont tous au même bilan de une victoire et quatre défaites, mais bon, Lions, Raiders, Steelers et Commanders, ça semble quand même au-dessus, quoi, en termes d'effectifs, de coaching, ou l'un ou l'autre. Je sais pas, il y a au moins l'un ou l'autre, tu vois. Détroit,
t'as vu, je pense
peuvent en accrocher deux ou trois, tu vois.
Ah, déjà, Détroit, ils peuvent marquer des points.
Voilà.
Ça s'est pas vu récemment, mais ils peuvent marquer des points.
Ouais, je vous trouve bien gentil avec les autres, mais peu importe.
Bon, les Raiders, on va y revenir, mais ça peut.
Oui, d'accord, ouais.
Les Steelers, peut-être si TJ Watt revient, ils peuvent en arracher. Là, je te parle d'arracher deux ou trois matchs pour pas être numéro un de la draft.
Pour une fois, que c'est Raph qui est plus gentil que moi avec les Panthers, c'est bien.
Ouais, je sais pas. Bon, bref, peu importe, on va pas débattre pendant deux ans de.
Oui, surtout sur la draft quand même.
Si Carolina fera deux ou quatre victoires, hein, je pense que c'est pas si important que ça, mais.
Après, non, mais oui, parce que c'est vrai que c'est leur année, juste pour résumer, c'est vrai que c'est l'année visiblement pour choisir des quarterbacks hauts. Donc, comme ils en ont besoin et qu'ils courent après depuis des années, c'est vrai que ce serait quand même bien de finir bas dans le classement aujourd'hui.
Bah, la dernière fois qu'ils ont été numéro 1 de la draft, ils ont pris Cam Newton.
C'est vrai.
De mémoire, hein.
Qui a quand même gratté un titre de MVP là-bas. Hein. C'est
pas, tout à fait.
Et une finale quand même.
Et ouais, une finale. C'est pas un échec total. Les Saints, 29, Seahawks, 32. Taysom Hill est parmi nous, messieurs. Alors, il est tight end, mais il a marqué 3 touchdowns au sol et lancé une passe de touchdown. Donc, je ne sais plus vraiment s'il est tight end, mais il est là en tout cas. Il a même recouvert un fumble sur l'équipe spéciale. On ne peut pas nier quand même que c'est un joueur très très fun. C'est pas un grand quarterback, hein, mais c'est un joueur très très fun. Taysom Hill, il a rendu ce match très très fun, Raphaël.
Mais on n'a jamais eu de problème avec Taysom Hill utilisant un gadget, ce qui nous posait problème l'an dernier, il y a deux ans, enfin je ne sais plus à quelle année ils ont fait les malins avec Taysom Hill, mais ce qui nous gênait, c'est quand on lui faisait lancer 20 ballons et qu'on le prenait pour un quarterback. Là, c'était embêtant. Maintenant, quand il est utilisé comme ça, effectivement, c'est un drôle de joueur. C'est même un joueur assez unique en NFL de par cette capacité-là qu'il a à tout faire. Donc oui, quand il est utilisé en gadget, bah c'est une bonne idée. Ça permet d'avoir un playbook assez diversifié. Alors, il est face à une défense de Seattle qui est un peu en mode porte ouverte cette saison.
Tu trouves ?
Pas trop la tête, quoi. Je veux dire, bon, on fait jouer des jeunes joueurs et c'est cool. Ils prennent un peu d'expérience et on verra plus tard.
Ils prennent un peu de bleu.
Ouais, non,
ils
mais
sont
bon,
un peu tabassés.
Ils apprennent le métier. Voilà, faut voir ça comme ça.
Ouais.
Non, mais oui, comme tu dis, c'est un joueur agréable à regarder.
Bon, après, tu l'as dit, il n'y avait pas une grosse défense en face. Je rappelle le scénario, Seattle menait 32-31 dans le quatrième quart avant qu'un touchdown de 60 yards de Taysom Hill ne donne la victoire aux Saints. Leur défense a souffert, les Seahawks, on l'a dit, mais Geno Smith est toujours aussi solide. 268 yards, 3 touchdowns. Greg, est-ce qu'on a le comeback de l'année, peut-être de la décennie, peut-être du siècle?
Écoute, je le souhaite à Geno Smith parce que moi, encore une fois, j'ai toujours des souvenirs un peu émus de Geno Smith, ne serait-ce que par son passé à West Virginia. Donc voilà, s'il peut rebondir au moins un jour dans une franchise, il y a des joueurs hein, qu'on a vu au moins exploser sur le tard dans des franchises alors que début de leur carrière, ça ne donnait rien. Honnêtement, là, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est plus la défense de New Orleans que vraiment dire que Geno Smith, en effet, parce que il y a des touchdowns qui sont marqués par Seattle, mais je crois que c'est quasiment que des big plays, quoi. Le nombre de big plays de plus de 30 yards qui est concédé par la défense des Saints, quand on sait que globalement, c'était quand même une défense qui était quand même assez sous Sean Payton, qui était capable de verrouiller quand même un minimum, d'avoir un jeu au sol extrêmement, extrêmement solide. Là, ils ont un head coach en plus qui a mentalité défensive, hein, Dennis Allen. Et on a l'impression que c'est une équipe qui se fait ouvrir de toutes parts. Marshon Lattimore, même contre Tyler Lockett, il était constamment à la rue. Mm. Enfin, constamment, j'exagère un peu, mais en tout cas, on l'a vu pas mal en difficulté sur beaucoup de séquences. Sur le jeu au sol, ils se font ouvrir aussi. Il y a un nombre de plaquages manqués. Sous Sean Payton, je reviens là-dessus, mais c'était une équipe qui maîtrisait la marge de turnover. C'est la pire équipe de la ligue dans ce domaine.
Oui, bah ça, donc, c'est Winston dans ton effectif, hein, ça.
Bah, oui, mais pour le coup, Winston, il joue pas depuis quelques semaines.
Oui,
Là, en plus, il récupère Alvin Kamara. Alors, c'est sûr, encore une fois, le fait qu'il manque un joueur comme Michael Thomas, c'est un déficit. Je veux dire, ton attaque a la possibilité de commettre moins de pertes de balles, mais c'est pas normal que ta défense soit aussi permissive que ça. Que s'il y a avec une jeune défense implose, on va dire, sur certains drives. C'est pas infamant, mais en tout cas, voilà, on arrive à se l'expliquer. Du côté des Saints, t'as quand même 2-3 joueurs qui ont été pro bowlers quand même. Je veux dire, t'as quand même de quoi tirer un peu plus que ça, quoi.
Ce qui est un peu gênant, c'est que c'est quand même globalement en défense du côté de New Orleans, c'est quasiment le même effectif que l'an dernier, à 2-3 ajouts près ou machin. Denis Allen, qui est le head coach, était leur coordinateur défensif. Donc, tu as l'impression qu'en un été, tout s'est perdu. Alors, ça a tendance à confirmer que certaines personnes ne sont faites que pour être coordinateurs et il faut qu'elles en aient conscience. Dan Quinn, je pense, et peut-être que Denis Allen fait partie de cette catégorie-là. Mais oui, ça remet quand même en cause pas mal de choses sur la défense des Saints. Pour moi, c'est ce qui est le plus... Je t'entendais, Alain, je crois que c'est l'émission de la semaine dernière où tu disais que tu n'attendais rien des Saints. À titre personnel, j'attendais un peu plus défensivement quand même de cette équipe. C'était une bonne défense l'an dernier. On pouvait s'attendre à ce que cette défense aille chercher des matchs, notamment contre Seattle pour le coup. Et là, le fait qu'ils ne soient même pas capables d'aller prendre ces matchs-là défensivement, bah, tu sens que la saison de New Orleans va être plus compliquée que prévu peut-être, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas c'est compliqué. Et
sur le papier, ils ont quand même un des meilleurs duos de safety de la ligue, quoi.
Ils arrivent quand même
à se rouvrir de cette manière-là, plein centre sur du jeu profond, c'est quand même chaud, quoi.
Ils ont plein de bonnes choses, ils ont plein de bonnes choses en défense, mais c'est pas grave, ça nous permet de voir le retour de Geno Smith qui est assez fun à voir quand même.
Quand même, un petit peu de dommage à Geno Smith.
Bah oui, bravo Geno. Il est efficace, hein. C'est pas que sur ce match qu'il est efficace, faut quand même reconnaître que depuis 5 semaines. Il est assez bluffant parce que ça, c'était le match offensivement, c'était un match assez typique de ce qu'aurait pu faire Russell Wilson ces dernières années à Seattle, des big plays dans tous les sens pour Lockett en profondeur, du Metcalf. Enfin,
il y a eu toutes les théories hein, de toute façon sur le Slack de la rédaction. Oui. Est-ce qu'il a aspiré l'âme de Russell Wilson? Est-ce que Tyler Lockett était la clé de l'attaque? Je crois que c'est toi, Raphaël, qui a soumis ça. Beaucoup de questions quand même hein, en suspens
beaucoup de choses autour de cette attaque.
Greg a évoqué le jeu au sol. En effet, ils ont été à 7,2 yards par course et 151 yards au total. Ça aide aussi. Par contre, Rashad Penny est blessé pour le reste de la saison. Il s'est cassé le fibula.
Ouais, il n'y arrive pas définitivement.
Mais voilà, il n'a jamais joué une saison complète. Donc, c'était probablement qu'une question de temps. Vikings 29, Bears 22. Vrai match de Vikings, ça. 3 touchdowns sur les 3 premiers drives. Bim. Et puis un énorme trou. Un peu des punts, field goal manqué, interception. Les Bears passent devant, 22-21. Et puis Minnesota qui marque à 2-26 de la fin pour repasser devant avant d'arracher le fumble pour la victoire. Cette équipe est extrêmement fatigante, Raphaël, on est d'accord?
Ouais. C'est semaine après semaine depuis 4-5 ans maintenant. Je ne sais même plus, j'arrive même plus à compter. C'est toujours la même irrégularité, la même inconstance offensivement, défensivement. Il y a des phases, des séquences, tu dis, ah ok, c'est une vraie équipe, il y a des très bons joueurs, elle peut prétendre à quelque chose, et puis d'autres, tu comprends pas, il y a des trous d'air. Pourtant, ça change de coach. C'est le genre de truc, franchement, à un moment, je sais même pas.
Après, est-ce que l'effectif a été tant bousculé que ça? Je sais pas. Hein.
Ouais, j'entends, mais est-ce que c'est vraiment les joueurs qui sont. Enfin. Ouais, est-ce que c'est les joueurs qui sont capables de trous d'air comme ça et
fondamentalement, ils ont changé un coach à mentalité défensive par un coach à mentalité offensive. Donc, les points, tu es capable de les marquer parce que tu as des fantastiques playmakers autour de Kirk Cousins. Mais c'est vrai que tu as un head coach qui reste jeune aussi. Hein. Je pense que c'est peut-être également à prendre en compte. Mais ouais, c'est vrai que c'est. Franchement, je ne leur souhaite pas. Hein. Mais vraiment, Minnesota, c'est vraiment le profil d'équipe. Où tu te dis s'ils vont en playoff, ils sortent dès le premier tour.
Oui.
Ouais, je ne vois pas
cette équipe faire un run.
Franchement, je leur souhaite de me tromper. Enfin, pas de me tromper sur les playoffs, mais vraiment, je leur souhaite de me tromper sur le scénario. Mais ouais, c'est vraiment l'équipe qui peut montrer encore une fois, on répète ce qu'on disait l'année dernière, une équipe qui peut montrer un visage différent d'un drive à un autre, quoi. Et là, sur ce match-là, s'il n'y a pas le big play de Cameron Dantzler à la fin, ce ballon arraché à Emir Smith Marset, les Bears se retrouvent en position de field goal et en l'occurrence ils avaient besoin d'un TD. Mais en tout cas, ils se retrouvent en excellente position pour potentiellement mettre la pression. Alors que franchement, j'ai vu des gens dire il y a une bonne prestation de Justin Fields, il y a des bonnes stats. Alors certes, 15 sur 21, c'est pas trop mal. Mais c'est chaud quand même. Hein.
Oh, t'es dur.
Ça a l'air tellement dur. Tout ce qu'il fait, ça a l'air tellement dur. Non, mais il a pas de ligne, il a pas des bons receveurs. Il a des running backs qui sortent des jeux clés au moment qu'il faut, mais bon, il n'y a pas non plus un jeu au sol transcendant. Mais ouais, enfin, globalement, cette attaque, ça a l'air tellement pénible. Et le fait de se dire que Minnesota concède 22 points et se met en difficulté de la même manière dont ils se sont mis en difficulté contre Détroit il y a quelques semaines de ça à la maison, ça interroge vraiment beaucoup quand même.
Non, mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Ça reste une équipe qui est un peu compliquée. Tu crois en Justin Fields, toi, Raphaël, après ce match?
Non, j'en sais rien. Je sincèrement.
Ah non.
Non, mais
je crois plus en les Panthers qu'en Justin Fields.
Non,
c'est
mais ce que je veux dire, c'est que de facto, c'est son meilleur match de la saison. Il lance plus de 10 ballons. Ah,
ça, c'est sûr.
Donc voilà, de facto, est-ce que c'est le match déclic de sa jeune carrière? Je crois pas. Maintenant, il est pas bien entouré, mais il montre rien. Je sais pas. Il en est qu'un an et 5 matchs. J'attends de voir, je sais pas, j'avoue que c'est un quarterback et des fois c'est la subjectivité de ce qu'on fait, hein. Il y a des quarterbacks qu'on tabasse bien plus vite, bien plus rapidement. Je sais pas, j'ai envie de lui laisser un bénéfice du doute. Voilà.
Ah mais moi aussi, hein. Mais en fait tu dis enfin, j'allais dire c'est du langage corporel, je sais pas, mais t'as l'impression vraiment, mais alors, je pense que c'est aussi une réalité, hein, vu ce qu'on voit au niveau des stats sur l'ensemble, mais t'as l'impression que tout est très dur et que même il y a des situations où il est un peu en mode panique, qu'est-ce que je fais? Je cours à droite, je cours à gauche. C'est très, très laborieux. Et je me dis, c'est presque miraculeux que Chicago, à un moment donné, ait réussi à mener dans ce match. Ça sort de nulle part, avec les deux field goals manqués, en plus, je pense que ça vous a fait plaisir, de la part de Greg Joseph, le kicker de Minnesota. Ça a dû rappeler des bons souvenirs aux spectateurs londoniens. Mais ouais, c'est ça aussi d'ailleurs, hein, ça aussi, ça va peut-être être rédhibitoire à force de pas avoir un kicker qui concrétise les actions offensives, ça peut être problématique pour Minnesota.
Allez, une petite respiration et on passe en AFC.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Et dans l'AFC, on commence avec le match entre les Bills et les Steelers, qui ne devrait pas prendre énormément de temps à débriefer, 38-3 pour Buffalo. On savait que ça serait compliqué pour Kenny Pickett de commencer contre les Bills. Bon, c'était un euphémisme. 31-3 à la pause, c'était terminé. Josh Allen à 424 yards, 4 touchdowns à la passe. Gabe Davis et Stephon Diggs sont à plus de 100 yards chacun. On évacue les Bills assez rapidement, je pense, messieurs. Ils sont remis sur les rails, ils ont fait ce qu'ils ont fait pendant les deux premières semaines. Greg.
Oui, pour moi, c'est... De toute façon, avec les Chiefs, pour moi, c'est peut-être la plus grosse force de frappe aérienne de cette ligue. Hein. C'est vraiment impressionnant cette faculté qu'ils ont et ça se voit notamment, ne serait-ce qu'avec les deux touchdowns de Gabriel Davis, cette capacité qu'ils ont à vraiment pouvoir appuyer sur l'accélérateur en toutes circonstances. Et là, en plus, ils n'ont pas tout le monde. Il manquait Dawson Knox, par exemple, sur le poste de tight end et ils arrivent quand même à être globalement excellents offensivement et à tuer le suspense très vite. Il y avait 31-3 à la pause. Donc ils se sont même permis le luxe de faire tourner un petit peu autour des vestiaires. Donc, tous les voyants sont au vert pour Buffalo. Il y a juste une défaite et une courte tête à Miami, mais qui est tout sauf infamante. Mais globalement, cette équipe de Buffalo, elle est au rendez-vous et là où on l'attend.
Alors, Kenny Pickett, 34 sur 52, 327 yards d'une interception. Il y a des stats quand le match est joué, mais au final, c'est pas si mal que ça, Raphaël.
Il y a des passes assez précises. On a l'impression comme ça qu'il rate beaucoup de passes, mais il y a quelques drops et voilà. Mais effectivement, il n'a pas été inintéressant. Après, il prend de la pression, c'est compliqué. Bon, voilà. Mais oui, c'était pas si mal. C'était un premier match en tant que quarterback rookie, quoi.
Greg, moi j'ai l'impression que le carton qu'ils prennent occulte un peu le truc parce que du coup vraiment voilà il est perdu là dans un mais c'est surtout sa défense qui perd, ils prennent 552 yards donc ils se font exploser, mais lui il fait pas c'est toujours mieux que Mitchell Trubisky, c'est ça que je veux dire, c'est faut pas dire ah ils ont pris une tôle donc
Non, non, bah après, forcément, ce que tu regardes sur le papier, c'est sûr que statistiquement, il y a en tout cas des bonnes connexions avec George Pickens. On les avait vus notamment face aux Jets et ça s'est confirmé sur ce match-là. Mais c'est vrai que forcément, on reste aussi sur le fait qu'il n'y a que 3 points au tableau d'affichage. Donc c'est sûr que ça veut dire qu'en effet, il est capable de faire bouger les chaînes, mais qu'il y a aussi malheureusement beaucoup de déchets encore. Dans des zones décisives, ou en tout cas quand il faut vraiment réussir à conclure. Ça, on ne le découvre pas. Raph en parlait tout à l'heure, le fait de trouver le bon moment, le moment idéal pour lancer ton quarterback rookie. Bah, c'est sûr que là, en effet, même si le scénario face aux Jets s'y prêtait, lancer Kenny Pickett, pardon, dans cette situation, c'était un petit peu un guépier. Mais bon, et c'est sûr que ouais, ce qui pose problème aussi, c'est sa ligne offensive et malheureusement ça s'améliore pas. Il y a un jeu au sol qui est exécrable sur ce match-là. Moi qui suis un inconditionnel de Najee Harris, je pense qu'on peut pas avoir une telle ligne de stats même avec une mauvaise ligne offensive. Et concrètement, ouais, le chantier paraît vraiment beaucoup plus vaste. Et concrètement, du côté de Pittsburgh, la seule chose qu'on peut se dire, c'est espérer retour le plus rapidement possible de TJ Watt en défense et espérer que Kenny Pickett, face à des adversaires un peu plus à sa portée, arrive à tourner, enfin en tout cas, arrive à avoir un casting un peu plus à la hauteur que ce qu'on a vu sur ce match-là.
Les Raiders et les Chiefs s'affrontaient dans le match du lundi soir. Chiefs 30, Raiders 29. Les Raiders menaient 17-0 dans le second quart. Les Chiefs leur ont mis un 24-3 pour repasser devant. Et là, plein de trucs tactiques à se mettre sous la dent. 4-27 à jouer, les Raiders marquent avec un extra point. Tu égalises, mais ils tentent la conversion à 2 points. Pourquoi, Raphaël, as-tu fait ça puisque tu es agressif et que c'est toi qui l'as fait?
Ouais.
Tu l'aurais fait, quoi qu'il arrive.
Il y a eu un petit festival dans l'AFC West, hein, quand même.
Alors,
Ouais.
Raphaël, pourquoi tu as fait ça?
Non, mais je sais pas. J'ai l'impression du coup d'être redondant et d'ennuyer nos auditeurs avec ça, épisode après épisode. Je pense que la seule stratégie qui valent, c'est celle d'essayer de gagner. Et si le coach estime que c'est qu'il a plus de chances de gagner en réussissant la conversion à 2 points, bah il y va, point. Enfin,
Mais
je
alors,
pense qu'en fait, il n'y a pas de.
pourquoi si loin? Parce que là, il reste 4 minutes 30 à jouer. Tu vois, et qu'est-ce que ça change d'avoir un point d'avance? Parce que, tu vois, ça ne les met pas au-delà d'un field goal, par exemple. Ça les mettrait à 4 points. Je comprendrais.
Après, il y a des choix curieux. Atlanta, ils ont tenté une conversion à 2 points, alors que ce n'était pas forcément une obligation quand ils reviennent à 21-13.
Ben, c'est ça.
Après, McDaniels l'explique. Enfin, et pour lui, c'est être agressif, c'est que jouer l'égalité contre Kansas City à Kansas City, ça sert à rien et qu'il veut être devant au score parce que derrière, il a pas forcément tort. Sa défense récupère la balle aux Chiefs. C'est eux qui ont la balle en dernier. Donc je veux dire, c'est les Raiders qui ont la balle en dernier à la fin. Donc si ils réussissent la conversion à 2 points, potentiellement c'est eux qui sont devant au score avec ce ballon en fait.
Je vois ce que tu veux dire.
Enfin. Moi pas trop, mais pour non mais enfin moi je veux bien entendre la stratégie, mais déjà d'un point de vue timing en effet, et ça tu le citais Alain, c'est vrai que c'est un peu énigmatique malgré tout, parce qu'ils auraient très bien pu remettre le ballon enfin ils auraient vu comment attaque Kansas City, de toute façon, voilà, les 4 minutes, ils auraient eu l'occasion de remettre la main sur le ballon, et ils l'ont fait en l'occurrence. En fait, c'est plus la situation actuelle des Raiders, moi, qui m'interroge. C'est quel message t'envoies à ton vestiaire dans ce type de situation? C'est-à-dire que déjà, les Raiders sont en plein doute. T'as un match, encore une fois, où tu te fais remonter de la manière dont tu te fais remonter, où tu arrives malgré tout à produire et à être efficace offensivement. Alors, je veux bien que tu te dises que tu es sur un momentum, etc. Mais là, les retombées, elles sont quand même très fâcheuses pour les Raiders, quoi. Parce que tu te retrouves à 1-4. Alors, certes, on dit que l'AFC est ouverte.
Mais
L'AFC est aussi très compétitive. Donc, il va quand même falloir cravacher, mine de rien, derrière. Surtout qu'il y en a déjà deux dans la division qui commencent, mine de rien, à prendre la poudre des trompettes. Donc, le timing m'interroge un petit peu du côté de Josh McDaniels. Après, je ne dis pas que ça ne se tente pas, mais ouais. Malheureusement, ce n'est pas la seule approximation qu'on a vue dans cette fin de match. Il y a quand même cette fameuse action où Davante Adams et Hunter Renfrow se percutent sur des tracés. Enfin, je sais pas, moi, pour moi, c'est quand même censé être anticipé, ce genre de choses. Donc, si tu appelles un jeu où tes receveurs se croisent de cette manière-là, à un moment donné, alors je me doute que forcément, il y en a sans doute un qui n'a pas fait le tracé qu'il fallait. Mais oui, forcément, ça fait un peu tâche, surtout quand tu te retrouves sur une quatrième avec une espèce de passe un peu lobée de Derek Carr façon désespérée. C'est plus ça. C'est une gestion de fin de match assez désastreuse. Et encore une fois, ce petit peps qu'on arrivait à voir avec Brandon Staley l'année dernière, qu'on arrive à voir pour l'instant avec Brian Daboll du côté des Giants, par exemple, Josh McDaniels, pour l'instant, il ne les maîtrise pas. Et ça envoie un mauvais message et c'est un peu amplifié par ce qu'on a vu avec le Davante Adams, par exemple, post-match. C'est comment réagit le vestiaire à tout ça et à cette situation dans une équipe qui était présentée comme un prétendant légitime au play-off.
Après, c'est un crève-cœur parce que la défense arrête les Chiefs. On l'a dit, derrière, ils tentent une quatrième et un qui rate. Ils ont eu le bon départ à 17-0. Ils ont eu un coup de sifflet pour eux quand même avec une brutalité très sympa sifflée sur Chris Jones. Ils ont eu deux fois le ballon de la gagne. Donc, en vrai, ils ont eu quand même plein d'occasions de tuer ce match, quoi. Et
si on veut être un peu optimiste, c'est quand même leur meilleur match de la saison.
Bien sûr.
Comme tu dis, il y a cette décision. Il y a la réception de Davante Adams qui n'est pas accordée sur une troisième tentative qui aurait permis de se mettre en position de field goal sur le dernier drive pour aller l'emporter, qui ressemble plus à un arbitrage de compensation pour ce qui s'est passé avant avec Chris Jones qu'autre chose. Je trouve qu'il y a quand même malgré tout, oui, c'est des défaites, et donc à voir comment le vestiaire le digère, à voir. Mais dans le contenu, on a enfin vu un Chandler Jones présent qui a soulagé Max Crosby, qui a aidé Max Crosby. Et donc, tout d'un coup, une défense qui est bien plus performante parce qu'il y a deux pass rushers et plus un seul. Enfin,
ça reste une équipe qui perd 4 matchs, mais qui perd 4 matchs d'un score d'écart.
Ouais, je trouve que quand même, il y a du mieux dans le contenu et que s'ils arrivent à passer un peu la frustration là, de la défaite de peu et à continuer sur cette dynamique, il ne manque pas grand-chose pour que les victoires arrivent. Franchement, c'est...
Est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure équipe à 1-4 de la Ligue?
Peut-être même de l'histoire, d'ailleurs. Je ne sais guère.
Voilà. On n'a pas parlé beaucoup des Chiefs, mais eux, ils sont à 4 sur 4 dans la zone rouge. Travis Kelce a marqué 4 touchdowns. Ils ont distribué en attaque. Leur défense
Ça aide à être à 4 sur 4 en zone rouge, quand même. Les 4 touchdowns de Travis Kelce.
Bon, ça monte en puissance du côté de Kansas City. On le savait déjà, mais c'est très très bon. C'est pas un match où on a appris grand chose.
Globalement les mêmes armes. Le jeu au sol a été un peu plus sollicité qu'à l'habitude. Enfin, le run stop, pardon, a été un peu plus sollicité qu'à l'habitude. Mais ouais, bon, il y a quand même eu des jeux décisifs, comme tu le disais. Cette action avec Chris Jones, notamment, qui n'a pas forcément été récompensée. Cette pression, notamment sur quatrième. Donc à l'image des Chiefs, c'est-à-dire que même s'ils sont amenés à prendre des points, ils auront toujours la capacité d'en marquer plus que l'adversaire.
Les Browns 28, Chargers 30, que ce fut dur. On est bien loin de la hype Chargers du début de saison. Brandon Staley a pris un gros risque en tentant une quatrième tentative sur ses propres 46 yards à 1 minute 13 de la fin avec seulement 2 points d'avance. La défense des Browns, donc il a raté évidemment. Derrière, les Browns ratent le field goal, ce qui sauve un peu Brandon Staley. La défense des Browns qui était à l'agonie une bonne partie de la soirée, c'est pour ça qu'ils tentent quand même, je pense. Et donc, ça rate. Raphaël, on ne va pas refaire le même débat que tout à l'heure. Tu défends parce que... Non, mais en vrai, c'est une balle de match. Là, pour le coup, c'est une balle de match. Tu fais confiance à ton attaque. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi.
Ouais, oui. De toute manière, de base, pour moi, c'est un peu des faux débats dans le sens si le coach estime que c'est la meilleure chose à faire pour gagner. Enfin, pour moi, c'est ce qu'un coach a à faire. Qu'on soit d'accord ou pas, quelque part... Envoyer Mac Williams dans le slot pour gagner un yard, ça me paraît pas être le truc le plus incroyable à faire. La défense des Browns sort la bonne action. C'est le football américain. Tu tentes un truc en attaque, la défense adverse te bloque, on passe à autre chose. Donc oui, et dans les faits, Joe, il s'en sort bien. Mais c'est pas tellement ça qui a failli leur coûter la victoire que plus le fait de se faire manger par Nick Chubb toute la soirée, en fait. Encore une fois, le run stop des Chargers, qui était déjà leur problème l'an dernier, qui leur a coûté la qualification en playoff, n'est toujours pas au niveau, malgré les arrivées de Khalil Mack, de Sebastian Joseph Day, notamment sur la ligne défensive, qui devait un peu solidifier le run stop. Le run stop n'est pas au niveau, donc c'est plus là où ils ont failli perdre le match que sur cette 4-1 tentée.
Les Browns pareil, j'ai pas l'impression qu'on apprenne grand chose en fait. Ils n'arrivent pas à conclure, alors que la défense des Chargers souffre aussi. Hein, pourtant, c'est la limite quand tu as un quarterback limite.
Bah, ce qu'on tire comme enseignement, c'est que les Browns, ils veulent pas gagner des matchs, quoi. Ça s'était déjà vu en deuxième semaine face aux Jets où ils perdent quand même un match qu'ils doivent gagner assez souvent quand même, où ils se tirent pas mal de balles dans le pied. Et là, c'est un match que tu perds de 2 points. En ayant, parce qu'on parle, du choix des Chargers, mais il me semble que les Browns aussi, hein, ils perdent un ballon sur une 4e jouée dans leur, moitié de terrain un peu plus tôt dans le match, qui est concrétisé derrière par un field goal de mémoire. Je ne vais pas dire de bêtises, encore une fois, avec tous les matchs, c'est un peu compliqué de ne pas s'en mêler les pinceaux, mais tu te retrouves à 2 points avec une position en red zone où, où Jacoby Brissett se fait un petit peu intercepter comme un débutant par, Aloy Gilman, où là encore, tu laisses un field goal de côté. Donc voilà, c'est sûr que c'est bon à prendre pour les Chargers, mais c'est vrai que cette équipe des Browns, globalement, je ne vais pas dire que c'était une équipe extrêmement favorite en début de saison. Forcément, on attendra surtout de voir le visage qu'elle aura avec Deshaun Watson. On sait qu'ils auront des armes intéressantes, en l'occurrence le pass rush et surtout le jeu au sol, hein, parce que le pass rush n'était pas forcément toujours en transcendant ce week-end. Le jeu au sol, c'est quand même très régulier. Par contre, ce qui est inquiétant du côté de Cleveland, et ça fait écho à ce que disait Raph, que les Chargers aient du mal à arrêter Nick Chubb, c'est pas les premiers cette saison. Et d'ailleurs, il me semble que Nick Chubb, c'est le coureur le plus prolifique depuis le début de la saison en termes de yards. Ce qui est plus problématique, c'est quand tu te fais ouvrir dans les grandes largeurs par une équipe qui avait du mal à installer son jeu au sol. Et avec un Austin Eckler qui fait 173 yards sur ce match-là.
173 yards, ouais. Les Chargers gagnent 238 yards au sol à 7 yards par course.
Voilà. Et je pense que le fait qu'ils aient tradé pour récupérer Deion Jones d'Atlanta, ce n'est pas étranger à ça. Je pense qu'il y a une volonté vraiment de renforcer un run stop qui était constamment en difficulté depuis le début de la saison. Et voilà, c'est des armes qu'il va falloir améliorer, en plus des nombreuses erreurs du quarterback. On peut dire que Jacoby Brissett n'est pas un numéro 1, mais c'est vrai que malheureusement, voilà, il a été un petit peu... Son rendement a été plus que rédhibitoire sur pas mal de fins de rencontre pour Cleveland depuis le début de la saison.
Et un big up à David Njoku quand même, 88 yards sur 6 réceptions, qui est le meilleur receveur de Cleveland cette année et qui fait une belle saison après avoir signé un contrat un peu étonnant, mais qui fait plutôt une belle saison pour le moment et qui sera une vraie arme, notamment quand Deshaun Watson va revenir. Les Commanders 17, Titans 21, Carson Wentz intercepté à 6 secondes de la fin par David Long pour assurer la victoire des Titans. Quelques belles passes, 3 fumbles qu'il a recouverts lui-même, une interception pour ponctuer tout ça. On parlait de la Vikings experience tout à l'heure, là je pense qu'on est sur la full Carson Wentz experience. Non mais voilà, je pense qu'on peut pas on peut pas faire plus belle opposition de style entre des Titans qui ont gagné 241 yards seulement en attaque mais qui ont perdu aucun ballon et qui étaient à 3 sur 3 dans la red zone, et bah, Carson Wentz, c'est un truc qui peut être explosif de temps en temps, mais de temps en temps bah, il t'explose dans la main, quoi.
Ouais, c'est ça. Non mais oui, t'as globalement résumé la chose. On a un Carson Wentz qui est passé de qui n'est pas passé loin d'être le héros du match, parce qu'il fait une belle remontée sur le dernier drive. C'est lui qui enchaîne les passes. Il remonte quasiment 80 yards de mémoire sur ce drive-là. Ils sont aux portes de la end zone. Et puis, bah, patatras, il y a cette mauvaise passe. Alors, il y a une bonne intuition du défenseur, mais la passe est peut-être un peu trop risquée à ce moment-là, mal jouée. Ouais, comme tu dis, de toute façon, son coach l'a déjà mis sous le bus plus ou moins en disant que c'était lui le problème.
Le carton d'ailleurs, ouais.
Écoute, si le coach dit que le problème c'est son quarterback, qu'est-ce que tu veux dire d'autre que...
Je t'avoue que, alors moi ce matin, en effet, je relisais les papiers, je vois que Mathieu a programmé un article et alors il m'envoie un message en me disant j'ai programmé une décla de Ron Rivera sur Carson Wentz. Je me dis, j'espère que c'est pas un truc trop bateau quand même, genre je soutiens mon quarterback et tout ça. Et là, je vois le titre. La différence entre nous et les autres équipes de l'AFC, c'est le quarterback. Tu fais, ah ouais, ok.
Je prends.
c'est rare. C'est rare. Ça a le mérite d'être dit. Mais Greg, est-ce que tu es d'accord avec Ron Rivera? La différence, j'ai dit l'AFC, entre eux et le reste de la NFC, est-ce qu'il disait? C'est le quarterback.
Bah, c'est difficile de donner. Mais encore une fois, c'est. En termes de contenu, je pense que globalement, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit sur Carson Wentz. Malheureusement, oui, il y a ce côté un peu bombe à retardement perpétuel le concernant. On l'avait vu contre Jacksonville, par exemple, c'était passé d'une courte tête, mais du coup, c'était 2 TD, 2 interceptions, 2 TD. C'est, voilà, il y a ce côté, en effet, où tu ne sais pas quel visage du quarterback tu vas avoir d'un carton à l'autre. Et c'est surtout, c'est toujours pareil, c'était déjà son problème à Indianapolis, c'est la question de la protection du ballon. C'est quelqu'un qui, sous la pression, est amené à concéder trop de sacks, trop de fumbles, trop d'interceptions. Et malheureusement, au bout d'un moment, ça devient problématique. En plus, face à cette équipe de Tennessee qui a bien muselé globalement le jeu au sol, même s'il n'y a eu que 17 courses de la part des commandeurs. Donc, je pense qu'on n'a pas trop appuyé sur l'accélérateur à ce niveau-là non plus. Voilà, c'est à partir du moment où tu mets aussi ton plan de jeu sur les épaules d'un quarterback que tu sais potentiellement pénalisant, à un moment donné, tu récoltes ce que tu sais. Mais c'est vrai que c'est problématique et ça fragilise aussi de plus en plus Ron Rivera, mine de rien, cette déclaration, parce qu'il y a eu des investissements qui ont été faits pendant l'intersaison, notamment dans le secteur offensif. L'arrivée de Wentz, la draft d'un quarterback d'un receveur au premier tour, même si Jahan Dotson ne jouait pas ce week-end. Et tu te retrouves avec une situation où tu perds beaucoup de matchs alors que la défense n'est pas mauvaise depuis 3 semaines.
Après, honnêtement, justement, oui, je trouve qu'il pourrait balayer un peu devant sa porte au sens où tu as le contre-exemple en face d'une équipe qui est hyper bien coachée, même si ce n'est pas hyper rempli de talent à l'heure actuelle. Alors, ils sont très dépendants à Derrick Henry qui constitue à lui seul plus de la moitié des yards offensifs, hein, 132 yards pour Derrick Henry, 241 yards pour l'attaque. Mais les Titans sont le prototype de l'équipe bien coachée qui gagne un peu par tous les moyens, même si c'est un peu moche. Même, ils n'ont que 241 yards en attaque et ils marquent 21 points. Donc, Ron Rivera, il a quand même le contre-exemple face à lui et il ferait mieux de ne pas faire le malin, quoi.
Oui, oui. Perso, je te donne raison. Il met son quarterback sous le bus, mais ça ressemble un peu à une tentative de diversion ou pour oublier qu'il fait partie aussi des responsables de cette situation et d'une équipe qui, en 2 ans et demi avec lui, n'a pas dépassé les 7 ou 8 victoires de mémoire. Donc, voilà, il n'est pas non plus exempt de tout reproche et...
Du coup, c'est peut-être un message de coordinateur offensif. À travers Wentz, je trouve que c'est très maladroit comme déclaration. Aussi, vraiment, c'est ton cordoc tu cibles. Mais de toute façon, la politique de communication n'est pas terrible là-dessus. Et encore une fois, de toute façon, être à 4 défaites en 5 matchs, même si au mieux, tu es une équipe de milieu de tableau, mais que tu peux prétendre à mieux, ça fait quand même un peu tâche.
Les Jaguars 6, les Texans 13, probablement une des plus grosses déceptions de la saison, de la semaine, pardon. Les Texans ont marqué le touchdown de la gang grâce à Damon Pierce à 3 minutes 11 de la fin. Et les Jaguars n'ont jamais réussi à répondre, aucun touchdown pour eux, malgré 422 yards gagnés. On parlait d'efficacité tout à l'heure. Eux, ils ont fait plein d'erreurs. Il y a 2 interceptions pour Lawrence, il y a 0 sur 3 en 4e tentative. Il y a la défense qui prend une pénalité qui fait mal sur le drive du touchdown de Houston. Est-ce que c'est quoi, frustration, irrégularité de la jeunesse, ou alors l'anomalie, c'est quand ils ont bien joué et qu'on s'est un peu enthousiasmé trop vite?
Un peu des deux, peut-être, mais très concrètement, voilà, c'est sûr que forcément, leur prestation ultra aboutie du côté des Chargers, ça avait pu laisser penser à... J'ai l'impression qu'on était vraiment dans un scénario où il n'y avait rien qui souriait aux Chargers ce jour-là, et où à l'inverse, la réussite était clairement du côté de Jacksonville. Mais là, c'est sûr que ce n'est pas possible de proposer une copie comme ça, notamment offensivement. Je pense qu'ils ont un minimum de talent, ne serait-ce qu'au poste de quarterback sur le papier, pour pouvoir éventuellement ne serait-ce que marquer un touchdown quand même. C'est quand même pas compliqué face à une équipe de Houston qui restait quand même assez permissive, même si la défense me paraissait un peu plus performante que l'attaque depuis le début de la saison. Je pense qu'il y a quand même moyen de pouvoir un petit peu plus appuyer là où ça fait mal. Et du côté de Jacksonville, ouais, offensivement, je trouve que c'était d'une pauvreté, notamment dans les airs. On a surabusé des lancers de Trevor Lawrence avec un déchet assez régulier. Et c'est vrai que du côté de Jacksonville, je trouve que la seule constante depuis le début de la saison, c'est peut-être le run-stop en défense. Mais sinon, le reste, c'est vraiment intermittent à tous les étages. Et il va vraiment falloir que Doug Peterson remette un petit peu d'ordre là-dedans, parce que c'est plus que confus d'une semaine à l'autre.
Ouais. Raphaël. C'est un peu rageant, j'ai envie de dire, d'un point de vue extérieur. On se dit peut-être que Jacksonville, après ces deux belles victoires et malgré une défaite contre les Eagles, mais match où ils avaient bien commencé, on se disait ok, ils sont sur des bons rails, l'équipe progresse. Et là, du coup, cette défaite face aux Texans, qui est peut-être une des équipes de la Ligue qui a le moins montré de choses depuis le début de la saison, ça re-questionne un peu tout. Donc, on va encore avoir besoin de quelques semaines pour jauger cette Jaguars. Donc, je vais pas dire que c'est marche arrière, parce que peut-être que ça va repartir du bon sens, mais ça plonge un peu plus peut-être l'équipe dans le doute. Et je me permets juste ce petit truc polémique, mais je crois que c'est ESPN ou un de leurs journalistes qui a fait passer sur les réseaux sociaux les stats de de Gardner Minshew par rapport au stade de Trevor Lawrence après exactement le même nombre de matchs, donc à peu près une vingtaine. Et bah, sachez que Minshew était devant Trevor Lawrence sur toutes les stades. Voilà, je mets ça là, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Mais,
Je ne sais pas quoi en faire.
Désolé, j'aurais dû mieux la préparer. Mais...
Non, je ne sais pas quoi en faire. J'aime bien.
On a compris l'idée.
Attends, il est sur le banc des Eagles, toujours Gardner Minshew.
Ouais, tout à fait.
Les Texans, est-ce que c'est marche avant? Tu disais marche avant, marche arrière. Est-ce que c'est un truc significatif ou c'est ils ont gagné en faisant un match solide, en limitant les erreurs? Ils gagnent que 248 yards, hein, ça reste toujours très très compliqué, quoi.
Pour moi, ça, je trouve que les Texans, ça correspond un peu à ce qu'on disait jeudi dernier sur ces équipes qui, pour le moment, ont galère en attaque, mais font des choses intéressantes en défense. On le voit encore une fois en défense du côté des Texans, il y a des choses plus qu'honorables et de bon niveau. Lovie Smith, leur coach, a bien embrouillé le jeune quarterback adverse. Je pense pas que c'est une équipe qui est au niveau d'aller jouer quoi que ce soit et qui progresse peut-être pas autant qu'on le voudrait par rapport à l'an dernier, mais en tout cas défensivement c'est pas inintéressant ce qu'ils proposent.
En fait, ils nous font du coaching à la Lovie Smith version Bears, quoi. J'ai pas de quarterback, mais j'aurai un jeu au sol et potentiellement une défense pour faire des différences. Et là, en l'occurrence, le backfield défensif continue de progresser, mais voilà. Bon. Ça suffit en tout cas à Victor Rouillet pour me dire d'attendre de réserver le restaurant par rapport à notre pari de fin de saison.
C'était quoi le pari jusque là?
Que si les Jaguars se terminaient devant les Texans, ils me payaient le restaurant. Et vice versa, bien entendu.
Ok. Les Patriots et les Lions pour terminer, 29-0 pour New England. Le nouveau cauchemar de Raphaël s'appelle Bailey Zappi, Zappi Hour sur le site. Don't worry, be Zappi sur NFL.com. Les jeux de mots pleuvent, Raphaël souffre. Bon match, hein, 17 sur 21, 188 yards, un TD, une interception. Une interception qui n'est pas de sa faute d'ailleurs.
Il m'a fallu du temps pour l'avoir ce jeu de mots parce que je n'avais pas la prononciation anglaise en tête. Donc il m'a fallu un peu de temps, pardon, pour cet aparté.
Bon, mine de rien, il est bon. Enfin, il est correct sur ce match en tout cas. Bon, c'est une défense des enfers en face. Et il y a 176 yards au sol des Patriots qui aident.
Après, franchement, j'avais joué les Patriots sur ce match. C'est exactement le match que j'attendais de la part des Patriots. On éteint l'attaque des Lions qui est en feu depuis le début de saison. On blinde au sol et avec un quarterback routier, on va juste faire ce qu'il faut pour aller l'emporter facilement. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, il a été bon, enfin, il a été correct, mais il n'a pas eu grand chose à faire. On ne lui a pas demandé de balancer dans tous les sens, d'aller chercher au milieu, en profondeur. C'est ce qu'on aime chez les Patriots, c'est quand le plan est parfaitement exécuté, tout le monde sait ce qu'il a à faire exactement. Et ça se passe bien, quoi. Enfin...
J'allais rajouter que le plan chez les Patriots, c'est souvent de briser le fun de tout le monde parce que les Lions avaient pas fait un seul match à moins de 24 points. Et là, la hype des Lions, au moins offensive, s'est pulvérisée sur New England. 0 sur 6 sur les quatrièmes tentatives, 2 ballons perdus et Dan Campbell qui sort quand même une sortie d'anthologie à base de on a touché le fond. Alors, je pensais que les Lions avaient quand même touché le fond un paquet de fois ces dernières années, hein. Mais non, visiblement, une nouvelle fois. Je sais plus quoi dire.
Dan Campbell est toujours très fort en conférence de presse, de toute façon. Hein, donc,
Clairement. Enfin, je sais plus si c'est de la force, parce qu'il passe beaucoup de temps à s'excuser, là, quand même.
Oui, non, de toute façon, je vais pas répéter ce qu'a dit Raph, mais c'est vrai que, voilà, sans un Bailey Zappi de gala en première mi-temps, il y avait déjà 16-0 à la pause, avec la défense, notamment, qui avait fait la diff, notamment avec ce fumble recouvert et retourné pour un touchdown de Kyle Duggar. Pourtant la ligne offensive des Lions habituellement n'est pas forcément mauvaise. Là ils ont eu un Matt Judon par exemple qui a campé régulièrement dans la poche adverse, donc c'est des armes de toute façon avec lesquelles les Pats savent qu'ils peuvent composer si vraiment offensivement ça se passe pas bien. C'était déjà le cas l'année dernière. Il me semble qu'ils tapent par exemple les Ravens en 2021 avec ce type de rencontre là. Donc voilà, ils ont cette arme à disposition et là, ça a été plus que létal.
On termine ainsi cet épisode 520 du podcast Touchdown Actu. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Ça pousse, c'est ajouté à la liste cette semaine. Je l'ai déjà dit dans le fauteuil, mais il y a des contreparties qui arrivent très, très, très vite, même vraiment peut-être au moment où vous écoutez dans les heures à venir, parce qu'elles doivent arriver. C'est commandé. En fait, j'attends le colis là, des contreparties. Il y aura plein de trucs. Merci en tout cas encore une fois de nous suivre. Merci beaucoup Raphaël. Merci beaucoup Greg. On vous retrouve sur vos Twitter, @HiloRadioSa pour Greg, @Raphaël_TDA pour Raphaël, @AlainMatei pour moi-même, pour le site @TDActu sur Twitter, sur Facebook et sur TikTok, @TouchdownActu en entier sur Instagram. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. On se retrouve encore une fois tous les jours en ce moment. Ce sera la preview demain avec Victor Roulier. Merci beaucoup, messieurs. Très bonne fin de journée. Ciao, ciao.
Jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beastmode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin, on compte les points et on finit en requin.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.